Dina distinguait mal cette carrière. On les dirigea à la hâte vers la gauche, le long d'une saillie très étroite. À gauche, il y avait la paroi. À droite, c'était le vide. Et la saillie avait sans doute été creusée spécialement en vue de la fusillade. Elle était si étroite qu'en marchant dessus, les gens se plaquaient instinctivement contre la paroi sablonneuse pour ne pas tomber. Dina jeta un regard en bas, et elle sentit la tête lui tourner, tant cela lui parut profond. Une mer de corps ensanglantés gisait dans le ravin. Du côté opposé à la carrière, elle eut le temps d'apercevoir des mitrailleuses en position de tir, ainsi que quelques soldats allemands. Ils entretenaient un feu de bois sur lequel, semblait-il, ils faisaient chauffer du café. Lorsque toute la file fut arrivée sur la saillie, l'un des Allemands s'écarta du feu, saisit sa mitrailleuse et se mit à tirer. Plus qu'elle ne les vit, Dina sentit les corps tomber et la trajectoire des balles s'approchait d'elle. Une idée lui traversa l'esprit. À présent, ça va être moi. Et sans attendre, elle serra les poings et se précipita dans le vide. Elle eut l'impression de tomber pendant une éternité. Sans doute était-ce effectivement profond. Au moment où elle toucha le sol, elle ne sentit ni choc ni douleur. Elle fut d'abord inondée de sang tiède, et le sang coula sur son visage comme si elle était tombée dans une baignoire remplie de sang. Elle gisait les bras en croix, les yeux clos. Elle entendait des sons étouffés, des gémissements, des hoquets, des pleurs autour d'elle et sous elle. Beaucoup de gens étaient encore en vie. Toute cette masse de corps remuait presque imperceptiblement, se tassant, se serrant sous le poids des ensevelis vivants. Des soldats montèrent sur la saillie et, braquant des lampes torches sur le fond du ravin, se mirent à tirer des coups de pistolet sur ceux qui leur paraissaient encore en vie. Mais dans le voisinage de Dina, quelqu'un continuait à gémir très fort. Elle entendit marcher, cette fois-ci sur des cadavres. Les Allemands étaient descendus. Penchés sur les morts, ils leur prenaient quelque chose et tiraient de temps à autre sur ceux qui remuaient encore. Un SS trébucha sur Dina et elle lui parut suspecte. Il l'éclaira avec sa lampe de poche, la souleva et se mit à la battre. Mais elle restait inerte comme un sac et ne donnait pas signe de vie. Il lui flanqua un coup de botte dans la poitrine, écrasa sa main droite au point que les os craquèrent, mais il ne tira pas et poursuivit son chemin en marchant sur les cadavres. Quelques instants plus tard, elle entendit une voix en haut.
« Demidenko, on y va !»
Il y eut un cliquetis de pelle. On entendit les coups sourds du sable tombant sur les corps, de plus en plus près, et enfin des pelletées de sable atteignirent Dina. Elle allait être ensevelie, mais elle ne bougea pas tant que sa bouche ne fut pas remplie de sable. Elle gisait la face en l'air et avala du sable, s'étrangla, puis sans plus penser à rien, se débattit en proie à une terreur atroce, préférant être fusillée qu'enterrée vivante. De sa main gauche valide, elle se mit à retirer le sable. Elle étouffait, avait envie de tousser et réprimait cette toux de ses dernières forces. Puis elle se sentit mieux. Enfin, elle s'était dégagée. Là-haut, les policiers ukrainiens, sans doute fatigués par leur rude journée, creusaient paresseusement et, après avoir jeté quelques pelletées de sable, ils abandonnèrent leurs pelles et partirent. Les yeux de Dina étaient pleins de sable. Il faisait nuit noire. Une lourde odeur de chair se dégageait de la masse des cadavres encore froids.